L'actualité politique et l'UNI qui dresse le bilan du conclave de Deva. Elle est satisfaite du projet d'indépendance avec partenariat déposé par Manuel Valls. L'UNI qui souhaite la poursuite des discussions. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui font campagne en Nouvelle-Calédonie, ou presque, puisque les deux candidats à la présidence des Républicains sont intervenus hier soir en visioconférence. Ils ont échangé avec les adhérents calédoniens et l'avenir institutionnel a été évoqué. L'actualité judiciaire délibérée au 1er juillet dans l'affaire Calédonie Ensemble. Le ministère public a requis des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'encontre de l'ensemble des prévenus. Je rappelle qu'il s'agit d'un dossier de détournement de fonds publics. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leurs clients. L'actualité internationale, Volodymyr Zelensky est à Istanbul. En revanche, le président russe Vladimir Poutine n'a pas fait le déplacement pour mener les pourparlers de paix. Le sport a une nouvelle arrivée au sprint sur le Giro. L'Australien Caden Groves s'est imposé à Naples. Au général, pas de changement. Mats Pedersen conserve son maillot rose de leader pour 17 secondes d'avance sur Primoz Roglic. La météo, l'Ouest bénéficie d'un temps encore bien ensoleillé aujourd'hui. Ailleurs, les passages nuageux continuent de jouer les troubles faits en laissant échapper des averses faibles, notamment aux Loyautés et à l'extrême sud. Quant au mercure, il reste au-dessus des normales et affiche entre 26 et 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique sur le territoire.
Oui, et l'UNI qui approuve le projet d'indépendance avec partenariat déposé par le ministre des Outre-mer. Et elle affirme que c'est le projet de l'État, pardon. Sa délégation qui participait aux discussions sur l'avenir institutionnel veut poursuivre le dialogue pour aboutir à un accord. Lionel Sabot.
Jean-Pierre Jaïwe, Adolphe Digoué et Victor Toutougoro estiment que ce projet d'indépendance avec partenariat répond aux aspirations politiques, économique et sociale des Calédoniens, et il relève que ce projet a obtenu l'assentiment d'une majorité de responsables lors des négociations. L'UNI approuve d'ailleurs la méthode Valls et elle se retrouve dans ce projet d'indépendance présenté par le ministre des Outre-mer, comme le souligne Jean-Pierre Jaïwe.
Pour la première fois, l'État met sur la table sa vision d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on dit que c'est le projet de l'État. C'est un projet de souveraineté avec la France. Partenariat, association, mais c'est-à-dire que le pays devient souverain en partenariat avec la France. Donc c'est là où l'exercice se fait. Ce sont les compétences régaliennes qui sont rétrocédées à la France pour être exercées par la France. Et dans ce laps de temps, pendant cette période de transition, une période qui a été déterminée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On forme les Calédoniens pour participer à l'exercice de ces compétences régaliennes qui sont assurées par la France. Et ce partenariat, il peut durer sur un temps déterminé, comme il peut durer, c'est un partenariat qui est indéfini.
Mais c'est bien un projet d'indépendance.
C'est un projet d'indépendance. C'est exactement, et c'est là toute la difficulté que l'on arrive difficilement à discuter avec les non-indépendantistes.
L'UNI regrette en effet que les loyalistes et le Rassemblement refusent ce projet. Elle les accuse même d'avoir tout fait pour torpiller les négociations. Et dans la lignée de Manuel Valls, elle dénigre le projet des partisans de la France en parlant d'un projet rétrograde de partition et qui n'apporte aucune solution pour l'avenir. Mais l'UNI estime qu'un accord est possible. Elle affirme qu'il existe un consensus entre une partie importante des délégations présentes à Deva. Mais alors, quelles sont les délégations qui approuvent ce projet d'indépendance ?
Eh bien, il y a Calédonie Ensemble, l'Éveil Océanien, le FLNKS et l'UNI.
Et c'est avec eux que vous pensez pouvoir continuer à discuter ?
Oui, avec eux. On essaie de discuter déjà avec eux pour voir comment on peut avancer encore un peu plus. Et une fois qu'on se mettrait d'accord, il faut qu'on fasse également cette démarche vers les loyalistes et le Rassemblement.
Et après l'échec des discussions, l'UNI voit deux options. La première, c'est donc de poursuivre les discussions pour trouver un consensus sur le projet présenté par l'État. À défaut, elle suggère que l'État organise un référendum de projet pour départager les deux propositions, celle d'une souveraineté de la Calédonie avec la France et celle d'un fédéralisme au sein de la France. L'UNI qui n'est pas favorable pour l'instant à l'organisation des élections provinciales parce que, selon elle, cela créerait de nouveaux problèmes.
Et de leur côté, les loyalistes demandent à l'État d'assurer la bonne tenue des élections et ils souhaitent que les négociations se poursuivent, Lionel.
Oui, pour les loyalistes et le Rassemblement, il appartient désormais au gouvernement d'organiser les élections provinciales dans le strict respect des règles démocratiques, c'est-à-dire en assurant l'ouverture du corps électoral provincial, la liberté de faire campagne sur l'ensemble du territoire et le libre exercice du droit de vote dans les isoloirs garantissant l'anonymat et la sécurité des électeurs. Les loyalistes et le Rassemblement relèvent par ailleurs que le devoir des partenaires politiques locaux est de continuer à rechercher ensemble une solution politique durable et selon eux, le chemin pour trouver une solution consensuelle est étroit, mais il existe. Les loyalistes et le Rassemblement, qui réaffirment leur opposition à toute forme d'indépendance, restent pleinement engagés pour être force de proposition afin de faire émerger cette solution attendue par l'ensemble des Calédoniens. Une solution qui garantisse la stabilité institutionnelle et la reconstruction économique. Fin de citation.
À Paris maintenant, après avoir été interpellé à plusieurs reprises hier à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la situation en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a participé cette nuit au Conseil des ministres à l'Élysée. Une réunion au cours de laquelle le dossier calédonien n'a pas été évoqué, comme l'a confirmé la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, à notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Ce qui n'a pas empêché pour autant cette ancienne sénatrice LR de commenter l'actualité calédonienne. Sophie Prima qui regrette l'absence d'accord, mais souligne malgré tout certaines avancées.
Évidemment, le gouvernement regrette de ne pas avoir trouvé d'accord au terme de cette réunion. Nous avons entendu l'ensemble des parties. Je crois qu'il faut aussi penser que le travail que fait Manuel Valls maintenant depuis des mois donne quand même quelques avancées, notamment celle de remettre tout le monde autour de la table pour discuter, même confronter les désaccords. Mais tout le monde est autour de la table et continue à travailler. Il y a quelques avancées qui ont été actées, notamment sur l'organisation institutionnelle. Mais il y a encore du travail et nous devons trouver la voie pour trouver cet accord parce que la situation en Nouvelle-Calédonie est très préoccupante, notamment d'un point de vue économique. Et je voudrais redire ce qu'a dit le président de la République, c'est que la Nouvelle-Calédonie doit absolument rester dans la sphère française. Il y a eu 3 référendums et c'est très important que nous gardions cet objectif.
Sophie Prima, porte-parole du gouvernement, au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert. L'actualité politique toujours avec le dossier calédonien dans la dernière ligne droite pour la campagne à l'élection du président des Républicains. Et sur le territoire, le rassemblement est mobilisé. Vous le savez, hier soir, les 2 candidats sont intervenus en direct depuis Paris en visioconférence pour échanger avec les militants du parti, leur présenter leur programme et répondre à leurs questions. Et il a évidemment été question du dossier calédonien. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le député Laurent Wauquiez défendent tous deux, bien sûr, une Calédonie française. Bruno Retailleau qui a plaidé pour la construction dans le dialogue d'un destin commun.
Et comptez sur moi pour faire prévaloir notre voix, la voix de la Nouvelle-Calédonie qui associe dans un même destin des communautés qui sont différentes, mais qui doivent travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas le chemin d'une sécession, c'est pas le chemin d'une indépendance qui réglera les problèmes, c'est la construction dans le dialogue destin commun. En tout cas, comptez sur moi pour être votre ambassadeur à Paris, ici sur la métropole et surtout ici au sein du gouvernement.
La différence de style entre les 2 candidats, quand Bruno Retailleau veut être l'ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie au sein du gouvernement, Laurent Wauquiez veut lui faire pression sur l'exécutif.
Il faut que la parole du président des Républicains, elle soit indépendante par rapport au gouvernement et par rapport à Emmanuel Macron. Et ça, les amis, c'est essentiel. Quand vous êtes dans un gouvernement, il y a une règle, ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Vous ne critiquez pas le Premier ministre, vous ne critiquez pas le Président de la République, et vous n'intervenez pas sur les domaines qui ne sont pas les domaines de votre responsabilité ministérielle. Bruno a indiqué qu'il voulait être ministre de l'Intérieur, qu'il voulait le rester, que c'était sa priorité. Moi, je suis libre. Je dois rien à Emmanuel Macron, je dois rien à François Bayrou. Je ne suis pas pris dans la contrainte de la solidarité gouvernementale. Ça veut dire que je peux vous défendre et que je peux porter la parole des Républicains en étant totalement libre.
Et à l'issue de ces échanges avec les 2 candidats à la présidence des Républicains, Alcide Ponga, le président du Rassemblement, est sûr que les électeurs calédoniens feront le bon choix.
Je pense que le premier message, c'est que tous les 2 aiment la Calédonie française et ils sont également les héritiers de tout ce que la droite au niveau national a toujours porté pour défendre la Nouvelle-Calédonie française. Bien entendu, chacun a parlé aussi des enjeux actuels liés à ce qui s'est passé l'année dernière, liés à la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, mais également liés à la question de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Donc chacun a sa vision là-dessus, qui sont des visions pas forcément éloignées les unes des autres. Donc voilà, chacun a pu apprécier ce soir les éléments d'information apportés et chacun pourra décider en son âme et conscience dimanche.
Le rassemblement qui a 2 référents qui soutiennent l'un Bruno Retailleau et l'autre Laurent Wauquiez. Et c'est donc samedi à partir de 9h, heure de Calédonie, que les électeurs pourront choisir leur candidat par vote électronique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Après la proposition d'indépendance association posée par Manuel Valls et l'absence d'accord sur l'avenir institutionnel, souhaitez-vous que le président de la République, Emmanuel Macron, intervienne dans le dossier calédonien? Si vous souhaitez qu'il intervienne, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Je vous donne la réponse à la question d'hier. 93% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estime que les conducteurs de Tanéo ont eu raison de débrayer pour protester contre les caillassages dont ils sont la cible. Ils sont 7% à ne pas partager cette opinion. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à la question du jour. Vos rendez-vous sur RRB, nous reparlerons des discussions sur l'avenir institutionnel tout à l'heure en compagnie d'Éric Deschmecker, professeur de droit à Melbourne, observateur attentif de l'actualité calédonienne et défenseur de la Calédonie française. Avant de quitter le territoire, il sera donc notre invité du matin à 7h30. Et ce midi, c'est Eddy Lecourieux qui sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a annoncé il y a une semaine sa décision de démissionner de son mandat de maire du Mont d'Or. Il sera interrogé sur les raisons de ce choix, mais aussi sur le bilan de son action et sur son analyse de la situation. Eddy Lecourieux, invité de Transparence, c'est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Enfin, un triste anniversaire hier, celui des premiers morts des violences de mai 2024. 3 civils et un gendarme ont été tués le 15 mai 2024. Au Mont d'Or, un hommage a été rendu au gendarme Nicolas Molinari, âgé de 22 ans, tué d'une balle dans la tête à la coulée. Un an après, la gendarmerie s'est souvenue de ce drame en présence notamment du haut-commissaire Jacques Billan et du général Mathéos, commandant la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. De son côté, l'association des citoyens mondoriens a elle aussi rendu hommage au jeune gendarme tué il y a un an. Elle a déposé une gerbe devant la stèle érigée à son honneur devant la gendarmerie de Ploume. Un moment empreint d'émotion pour Florent Perrin, le président de l'association citoyens mondoriens.
Pour nous, Nicolas Molinari, c'est un personnage important puisqu'il a été assassiné sur notre pont à la coulée. On était tous un peu dans les parages parce qu'on surveillait aussi nos quartiers à l'époque. Et donc, ça nous a paru très important, le jour anniversaire de sa mort, d'être là. Que ce soit un peu quand même reconnu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a défendu des valeurs qui nous ressemblent. Donc, il fallait qu'on soit là en ce jour pour commémorer, pour marquer le coup et pour pas qu'on l'oublie.
Et devant la stèle, plusieurs dépôts de gerbes ont été réalisés. Une stèle qui avait été érigée le 4 février dernier à la mémoire du gendarme Molinari. Il est 6h passé de 43 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, l'actualité judiciaire. Ce sera juste après la publicité avec notamment cette décision mise en délibéré dans le procès de Philippe Gomès et de 5 cadres de Calédonie Ensemble.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Nouméa pas cher.
Offrir la lune à maman?
Un peu cher, mais un super cadeau à petit prix?
Là, on dit oui!
Chez Nouméa pas cher, c'est la fête des mamans avec des prix pleins d'amour, soins, déco, douceur et plein d'idées malines. Dans tous les NPC jusqu'au 25 mai, faites briller ses yeux, pas vos dépenses.
Nouméa pas cher.
La province Sud déploie SudPro. SudPro, c'est une plateforme novatrice qui interconnecte les patentés et les très petites entreprises durement éprouvées par la crise. C'est un dispositif fort, financé à hauteur de 1 milliard de francs par la province Sud, soit 250 000 francs par entreprise ou patentée. C'est surtout une aide directe et immédiate pour permettre de relancer l'activité. SudPro sera disponible dès la semaine du 5 mai depuis province-sud.nc. Avec SudPro, reconstruisons ensemble.
Pure Essentiel, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Pure Essentiel sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité judiciaire avec tout d'abord en bref ce communiqué du procureur de la République Yves Dupas. Il indique qu'une enquête est ouverte pour provocation à la haine raciale à la suite de diffusion de tracts dans le quartier de la Vallée du Tir et sur les réseaux sociaux. Le 13 mai dernier, mardi, des tracts à caractère raciste ont été retrouvés au pied de plusieurs boîtes aux lettres. Il reprend une photographie d'un singe et l'inscription « Canac égale consanguin, il est très violeur, sans histoire, déchet de la société ». Le haut-commissaire de la République, Jacques Billan, a transmis un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40. Il avait exprimé auparavant dans un communiqué sa profonde indignation. Le parquet a donc saisi la police afin d'identifier et d'interpeller dans les plus brefs délais les auteurs du tract et ceux qu'ils diffusent. Le délit de provocation à la haine raciale est puni de la peine de 12 mois d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros. Justice toujours avec le procès de 5 cadres de Calédonie Ensemble qui comparaissaient depuis lundi pour détournement de fonds dans l'affaire des emplois fictifs de la province sud et du Congrès. C'est refermé hier soir. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe de leurs clients. Plus tôt, le ministère public avait lui réclamé des peines allant de 18 mois à 5 ans de prison, dont une partie avec sursis et l'autre aménageable avec bracelet électronique. Le ministère public a également réclamé 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'encontre de l'ensemble des prévenus. Une décision qui a donc été mise en délibéré et qui sera rendue le 1er juillet prochain à 8h, Jean-François Bodin.
Ces emplois ont-ils été légalement attribués ou résultent-ils d'un système clientéliste mis en place par Philippe Gomès et Calédonie Ensemble, comme l'a souligné le procureur de la République dans ses réquisitions? C'est autour de cette question que le tribunal devra se positionner, sachant que la fonction de collaborateur, ses intitulés et ses modes de recrutement est définie dans la fameuse délibération CP dont il a été beaucoup question au cours de ces 4 jours d'audience, délibération qui visiblement prête à interprétation. Il faudra aussi que le tribunal tranche pour savoir si les 44 emplois concernés étaient fictifs, alors qu'aucune preuve d'un quelconque travail n'a été fournie, a souligné le ministère public dans ses réquisitions. L'un des avocats de la défense, Maître Cornu-Gentil, a tenté de déplacer le débat et il a interrogé le tribunal et donc la justice sur sa capacité à juger la qualité du travail d'un collaborateur et sur sa légitimité à le faire, alors que cela relève selon lui de son employeur, voire du tribunal du travail. Même si les postes, avait rappelé le procureur plus tôt, ont été émiettés, en clair, a-t-il dit, on répartit l'argent entre les districts et les familles de la communauté wallisienne et futunienne qui ont bénéficié de ces postes. Le ministère public a donc requis des peines de prison allant de 18 mois à 5 ans de prison, dont une partie avec sursis et l'autre aménagée avec bracelet électronique, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'encontre des prévenus. Maître Le Borgne, l'avocat de Philippe Gomès, dernier à prendre la parole, a lui conclu les plaidoiries par cette phrase adressée au tribunal. Les faits méritent que vous prononciez une décision de relax là où le droit vous commande de le faire. Le tribunal a 1 mois et demi pour peser les arguments échangés pendant le procès, prendre sa décision et la motiver. Décision attendue le 1er juillet prochain.
L'actualité judiciaire, c'est aussi la suite de la deuxième session d'assises de l'année. Depuis hier, l'homme qui comparaît est accusé d'assassinat. Le 27 décembre 2020 à Calagomène, il a tiré à bout portant avec un fusil sur un jeune homme. Hier, les témoins ont été entendus, tout comme l'accusé, avant de laisser place aux experts légistes, psychiatres et en balistique. Ce matin, c'est au tour des plaidoiries réquisitoires avant le délibéré attendu aux alentours de 10h30 pour le verdict. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En bref, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en avril. Cette augmentation est principalement tirée par les prix des produits manufacturés, plus 1,1%, et des services, plus 0,4%, et dans une moindre mesure par les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation également, plus 0,1%, qui contribuent peu à cette hausse. En glissement annuel, l'indice général augmente de 1,8%. L'autorité de la concurrence saisie par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la réalisation d'une étude spécifique sur les marges pratiquées par les enseignes de la grande distribution. Dans un souci de transparence et d'efficacité économique, cette étude portera à la fois sur les marges avant, l'écart entre les prix d'achat et les prix de vente aux consommateurs, et les marges arrière, remises, ristournes ou avantages accordés par les fournisseurs aux distributeurs. Comment préparer son insertion dans la vie professionnelle après ses études? Hier soir se tenait le forum étudiant organisé par l'Association des talents calédoniens. 9 intervenants, représentants de la SLN, la BCI, la Province Sud, la CCI, mais aussi d'anciens élèves partis en métropole puis revenus en Nouvelle-Calédonie, ont pris la parole à tour de rôle. L'objectif était de répondre aux questions des étudiants et futurs étudiants. Le but, selon le président de l'association, Pierre Kolb, était de partager leur expérience et permettre ainsi aux jeunes de s'inspirer, voire de se forger un réseau.
Alors le but de ce forum, c'est de préparer les étudiants qui sont, et c'est normal quelque part, focalisés sur leurs études, sur l'obtention d'un diplôme, mais de leur dire que derrière le diplôme, il se passe des choses, et notamment cette transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Et cette transition, c'est une phase qui n'est pas évidente et qui doit être préparée. C'est le message qu'on va un peu leur donner, qui doit être préparé, et notamment à travers un réseau. Et ce réseau, ça peut être en particulier le réseau des talents calédoniens qui est constitué de chefs d'entreprise extrêmement bienveillants, qui sont des gens expérimentés et qui sont là pour aider les jeunes à s'insérer du mieux possible dans la vie professionnelle.
Comment avoir connaissance du marché de l'emploi local depuis la métropole? Comment valoriser ses expériences sur un CV? Autant de questions qui ont pu être posées par les étudiants hier soir. La table ronde a réuni une centaine de participants dans l'auditorium de la CCI, parmi lesquels Wajoué, qui étudie le droit, et Sophie, qui est diplômée en économie-gestion.
Ça m'intéressait parce que je pars bientôt et en fait j'ai besoin d'avoir beaucoup d'informations. Les métiers de la justice, c'est un peu compliqué de préparer son retour. Du coup, voilà, c'est pour avoir un réseau justement pour pouvoir ensuite intégrer plus facilement la vie professionnelle. Je viens de voir qu'il y a 34 membres actifs du coup en plus, donc c'est énorme. Et ça me fait réaliser qu'en fait, il n'y a pas que les seuls petits réseaux que je connais. Ils ont plus de partenaires, oui, à côté. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup.
J'ai été diplômée l'année dernière d'une licence en économie et gestion à l'université. Je compte reprendre mes études. Avec les émeutes qu'il y a eu l'année dernière, ça n'a pas été facile de sortir d'une licence et de tout de suite accrocher avec un emploi. Et c'est justement pour ça que je vais reprendre mes études, parce que je me rends compte que, comme il a été dit dans ce forum, qu'on a besoin de compétences ici en Nouvelle-Calédonie, et pourquoi pas nous, la jeunesse calédonienne, partir pour mieux revenir. Il y avait une citation au début qui disait que la meilleure façon de devenir, c'est de s'entourer de ceux qui sont déjà ce qu'on veut être.
Il s'agit effectivement pour l'Association des talents calédoniens de faire revenir les talents sur le territoire après leurs études. Un prochain forum pourrait donc être organisé en juillet ou en août. Et puis c'est la fin de 3 années qui n'ont pas été de tout repos pour ces jeunes diplômés. 18 étudiants ont reçu hier leur diplôme d'infirmier d'État après un parcours mouvementé, Lionel Sabot.
Ils ont commencé leur cursus en 2022 et ne s'attendaient pas à devoir surmonter de telles difficultés. Le Covid a été une première épreuve dans la formation de ces jeunes. Et puis lorsqu'ils pensaient avoir laissé le pire derrière eux, les émeutes ont éclaté le 13 mai 2024. Il y a un an, jour pour jour, les étudiants de l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales ont vu leur établissement partir en fumée à Nouville. C'est finalement au terme d'une longue période de doute et de crainte, mais aussi de compatibilité, qu'ils ont finalement reçu leur diplôme hier. Parmi eux, Chandra Ramesh, 25 ans, garde bien en tête ce parcours mouvementé.
En fait, ça avait éclaté au mois de mai 2024 et on s'est dit que ça allait prendre 2 semaines, voire 3 semaines. Et en fin de compte, ça a pris 4 mois. On était tous dans le doute, mes collègues et moi. On ne savait pas si on allait reprendre parce qu'on a su que ça avait pris feu notre établissement. On était en train de se dire, est-ce qu'on va reprendre? Et c'est vraiment à partir du mois de septembre qu'on a su qu'on allait reprendre. C'était un soulagement, mais en même temps, ce qui faisait peur, c'était la route, quoi. D'aller directement à la clinique, parce qu'en même temps, il y avait des trucs au niveau du Sénat. Et comme on finissait à 18h, 19h, dans le noir, il n'y avait pas de lumière, on passait. Mais voilà, on se disait, est-ce que ça va passer ou pas? Si on se faisait caillasser ou pas? Donc, c'était plus ça qui m'inquiétait. Mais voilà, on s'est accroché. Il y a une solidarité dans notre promotion. Donc, on a tout fait pour bien finir, quoi. Soulagée d'avoir enfin fini la formation. Je suis très contente. Enfin, j'ai mon diplôme. Carrément que je suis fière de moi. 3 ans et demi, quand même, hein. Donc, je suis très contente de moi. Je suis contente aussi pour mes collègues. Mais on a géré.
Et sur une promotion de 36 étudiants, 18 ont réussi à valider leur diplôme d'État dans le contexte de pénurie de personnel soignant que connaît le territoire. Ces nouveaux infirmiers sont une lueur d'espoir pour la Calédonie. Ce sont les mots de Claude Gombet, membre du gouvernement en charge de la santé, qui a participé à la remise de diplôme.
L'actualité institutionnelle, les élus du Congrès étaient réunis hier matin en séance publique, à l'ordre du jour notamment l'examen d'un projet de loi du pays relative à l'exploitation des œuvres cinématographiques. Cette loi du pays, qui a été adoptée à l'unanimité, permet d'encadrer les relations contractuelles entre les distributeurs de films et les exploitants calédoniens. Et lors de cette séance finalement très technique, dans un autre domaine, les élus ont également adopté une délibération maintenant la garantie d'emprunt de la Nouvelle-Calédonie accordée à la compagnie Air Calédonie dans le cadre de report d'échéance de remboursement d'emprunt. Et en tout début de séance, les élus ont par ailleurs acté une modification de la composition de la commission permanente. Louis Mapou y remplace Inès Coité. En bref, 2 requins d'environ 3 à 4 mètres ont été aperçus hier en début d'après-midi à Lansvata. Après le signalement, le dispositif de sécurité a été mis en place par la police municipale et les pompiers de la ville. La police a évacué la plage peu avant 13h. Un bateau des pompiers de Nouméa et un drone de la police étaient sur place pour l'observation des squales. Par mesure de sécurité, la plage est restée fermée jusqu'à 15h30. Il est 6h54, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité internationale avec notamment ces discussions pour la recherche d'un cessez-le-feu en Ukraine.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Dimanche 25 mai, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans le restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales fête des mères sur la page Facebook Le Fun.
La dépression postpartum, et si on en parlait? Après avoir eu mon bébé, je me sentais triste, épuisée, en colère et sans énergie pour m'occuper de lui. J'en ai parlé à ma famille qui m'a soutenue et j'ai trouvé de l'aide auprès des professionnels de santé. Et aujourd'hui, ça va mieux pour nous tous. Si vous aussi, vous vivez cette situation, contactez votre médecin, votre sage-femme ou appelez gratuitement SOS Écoute au 05 30 30. Plus d'informations sur gouv.nc. Ceci est un message du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Envie de partir en vacances l'esprit tranquille? Ne laissez plus votre voiture sans surveillance. AutoSave Tontuta garde votre véhicule en toute sécurité pendant votre absence. Proche de l'aéroport, facile, pratique et sécurisé. Déposez, décollez, détendez-vous. AutoSave Tontuta, votre voiture, notre priorité. Téléphone 788 055.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Et pas de rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à Istanbul. Et pour cause, le président ukrainien est arrivé en Turquie en se disant prêt à discuter d'un cessez-le-feu avec son homologue russe. Seulement, Vladimir Poutine n'a pas fait le déplacement. Et la délégation russe est même d'ailleurs composée que de second couteau. Mais malgré tout, des négociations devraient bien se tenir, Antoine Mirvaux.
Oui, c'est en tout cas ce qu'avance le Kremlin qui dit vouloir mener des discussions constructives et trouver des points de convergence. Mais l'absence de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky à ces réunions rend cependant très peu probable, voire impossible, d'éventuelles avancées. D'autant que la délégation russe qualifiée de façade par Volodymyr Zelensky paraît bien maigre. C'est en tout cas ce qu'estime Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes.
Vladimir Poutine n'a envoyé que des seconds couteaux, notamment un ancien ministre de la Culture, très conservateur, et le chef du GRU, qui lui-même est sous le coup de sanctions de la part des États-Unis. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a strictement aucun point possible de négociation. La seule chose qui pourrait être envisagée, c'est un cessez-le-feu provisoire d'un mois qui pourrait obliger les deux parties à négocier plus longuement. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre de très concret.
Très actif sur le dossier depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump n'est pas non plus présent en Turquie. Le président américain estime même que rien ne se passera tant qu'il n'aura pas rencontré à nouveau lui-même Vladimir Poutine. Ce sommet à Istanbul ne devrait donc pas accoucher de grandes annonces. Même le chef de la diplomatie européenne, Marco Rubio, concède ne pas avoir de grandes attentes vis-à-vis de cette réunion en Turquie.
Antoine Mirvaux pour Europe 1. Le président chinois Xi Jinping, lui, vient d'adresser une lettre de félicitations au Premier ministre australien Anthony Albanese pour sa réélection. Lettre dans laquelle il souhaite que les deux dirigeants continuent notamment de promouvoir la paix mondiale. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans cette lettre, Xi Jinping a indiqué avoir mené des discussions approfondies sur des questions stratégiques et globales lors de ses rencontres avec Anthony Albanese au cours de son premier mandat. Ces discussions, a poursuivi le dirigeant chinois, ont abouti à d'importants consensus qui ont fourni des orientations stratégiques pour améliorer et développer nos relations bilatérales. Xi Jinping s'est donc dit prêt à collaborer avec Anthony Albanese pour faire progresser le partenariat stratégique global sino-australien de manière soutenue. Le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Australie est d'une importance capitale pour parvenir à un développement partagé et promouvoir la paix et la stabilité mondiale, a conclu Xi Jinping. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et j'ajoute que le Premier ministre chinois Li Qiang a lui aussi adressé un message de félicitations à Anthony Albanese. Il a indiqué qu'il souhaitait collaborer avec lui pour promouvoir un partenariat stratégique global sino-australien, plus mature, stable et fructueux. Fin de citation. 6h58, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Urgence, pouvoir d'achat.
Allô, la pièce du puzzle qui va à droite, là.
Chérie, on a des courses à faire, je te rappelle.
Oui, bah vas-y, moi je fais le puzzle.
Mais t'es sérieuse? On vient à Hyper Upa Ita et toi tu...
Et moi, je participe au jeu spécial Fête des Mères. Alors tu vas faire les courses et tu me laisses me concentrer. Merci. Jusqu'au 25 mai, jouez avec Hyper Upa Ita et tentez de gagner plus de 400 000 francs de cadeaux. Pour jouer, remplissez le formulaire en ligne directement en magasin, reconstituez le puzzle et qualifiez-vous pour le tirage au sort. Profitez-en pour consulter notre catalogue spécial Fête des Mères et profitez des promos du moment.
Plus d'infos sur la page Facebook Hyper Upa Ita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible en magasin.
U, commerçant, autrement.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foix et Coné.
RRB. Première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et du cyclisme avec la suite du Tour d'Italie. On courait cette nuit la 6e étape dont l'arrivée était jugée à Naples, Lionel Sabot.
Oui, l'éruption des premières gouttes de pluie sur cette 108e édition du Giro Italia a semé le chaos sur les routes du sud de l'Italie, transformées en patinoire. Jay Hindley, premier lieutenant de Primoz Roglic chez Red Bull Bora et vainqueur lui-même du Giro en 2022, est allé au sol avec des dizaines d'autres coureurs dans la traversée d'un village à environ 70 km de l'arrivée. Ça tombe très très fort dans le peloton. L'équatorien Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, le français Paul Magnier, finalement troisième de l'étape, et le britannique Adam Yates ont aussi été impliqués, mais ils ont pu repartir. Hindley, lui, est resté assis pendant de très longues minutes sur le trottoir avant de monter debout sur ses jambes, heureusement, dans une ambulance visiblement sonnée abandon. Après la chute massive et l'abandon donc de Hindley, la course a été neutralisée pendant une vingtaine de kilomètres. Les organisateurs ont ensuite annoncé que tous les coureurs allaient être classés dans le même temps et qu'il n'y aurait pas de bonification attribuée à l'arrivée. Mats Pedersen, assuré donc de garder son maillot rose de leader, en a profité pour se relever à 20 kilomètres de l'arrivée. L'étape s'est terminée sur un nouveau sprint massif remporté par l'Australien Caden Groves. Au classement général, Mads Pedersen conserve son maillot rose de leader avec 17 secondes d'avance sur Primoz Roglic et 24 secondes d'avance sur Mathias Varek.
Le sport en Nouvelle-Calédonie avec du football. J-1 avant la reprise de la Super League, puisque c'est demain samedi qu'aura lieu le coup d'envoi d'une saison au format transitoire.
Oui, 4 matchs seront au programme. 2 au stade Victorin Boeva du Mont d'Or. C'est à Saint-Louis à Escouni à 14h et puis à AS Mont d'Or Yengen Sport à 16h30. Du côté de Nouméa, c'est au stade Numadele que l'AS Magenta ouvrira le bal à 15h face à l'AS Lecce. Dans la foulée, à 17h30, Tigasport défiera l'AS Gaïcha. Ces deux rencontres seront à suivre en direct sur la chaîne Pacific Plus, sur le canal 10. La tribune d'honneur du Stade Numadele est toujours fermée. L'entrée se fera donc uniquement côté mer, tarif 300 francs.
Merci beaucoup Lionel Sabot, c'est très précis. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et côté ciel, c'est avec vous Thierry.
Oui, ce matin sur la façade ouest, le soleil sera généreux. Ailleurs, des paquets nuageux circuleront et déposeront quelques gouttes. L'Alizé orienté est pour ce matin, 15 à 20 nœuds en général, voire 20 à 25 nœuds sur la pointe nord et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. Sur l'ouest, il sera un peu plus faible, compris entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, l'ouest bénéficiera d'encore d'un temps bien ensoleillé. Ailleurs, les passages nuageux continueront de jouer les troubles faits en laissant échapper des averses faibles, en particulier sur les Louis-Hautés et l'extrême sud à la fin. L'Alizé est-sud-est pour cet après-midi, reste compris entre 15 et 20 nœuds dans l'ensemble, et c'est sur l'extrême nord qu'il sera le plus fort, autour des 20 à 25 nœuds, et des rafales jusqu'à 30 nœuds comme le matin. Là, sur la façade ouest, il sera plus faible, autour des 15 nœuds. Les températures pour cet après-midi en général, comprises entre 26 et 29 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction, et ensuite, vous avez un avis, vous nous appelez au 25 46 46. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.